إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، اطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. Donc, Inch'Allah, nous entamons un nouveau cours, le deuxième cours, concernant la biographie de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Donc, la biographie qui est faite et préparée par le grand savant, le Cheikh Rabi' ibn Hadi Umayr al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala. Donc, nous avons parlé dans le précédent cours au sujet du livre de Al-Ghazali, en précisant que c'était l'ancien Al-Ghazali, et on en a parlé. À la différence de Muhammad al-Ghazali, le contemporain, l'Égyptien, qui est mort en 1996, il y a à peu près 19 ans, qui était une des élites des frères musulmans, la secte égarée, et qui égare un de leurs leaders parmi leurs chiouks, leurs savants, c'est Muhammad al-Ghazali. Même si Muhammad al-Ghazali, vu une certaine indépendance qu'il avait, ça lui a causé d'être banni du mouvement. Mais il est resté, et ses écrits sont restés, une référence chez les frères musulmans. Mais le mouvement en lui-même, il y avait des différends entre eux. Car la secte des frères musulmans, c'est comme un parti politique. Et c'est un parti politique qui est reconnu ou pas reconnu selon les pays, et qui, au nom de la religion, au nom de l'islam, l'islam n'est qu'un moyen et pas un objectif, un moyen pour atteindre les autres sphères, pour atteindre le siège, pour gouverner. Et le moyen entrepris par ce mouvement politique, avant tout, c'est la religion. Ils ont contribué à salir l'image de la religion auprès de la masse des gens et auprès des gouverneurs. Ils sont une des grandes causes qu'on se moque de la religion, wal'iyadu billah, qu'il l'ait fait en le sachant ou en ne le sachant pas. Mais le résultat, il est là. Combien de gens en sont arrivés à se moquer ou à prendre en moquerie la religion ou des personnes qui représentent la religion à cause de la secte des frères musulmans. Le côté sacré de la religion a commencé à baisser chez les gens à cause de cela. Ce mouvement qui a été fondé en 1928 pour faire revivre le califat qui avait été banni en 1924, 4 ans plus tôt, par le président turc, laïque, ennemi de la religion, Mustafa Kemal Atatürk. Et donc, le fondateur de ce mouvement, qui est Hassan al-Banna, et qui a pris le rôle de prédicateur et de personnes qui donnent des leçons religieuses dans les mosquées et dans d'autres endroits. Et il a fondé ce mouvement et des gens sont venus autour de lui. Et il a fondé ce mouvement de plusieurs manières. Il y a le mouvement connu par le public, donc qui est la façade, si on peut dire. Et à l'intérieur, il y avait des mouvements secrets, comme la branche armée de ce mouvement, qui avait des objectifs armés. Ça va lui coûter sa vie. Parce qu'un des membres du mouvement, plus de 20 ans plus tard, à la fin des années 40, va assassiner un des ministres égyptiens. L'assassinat de ce ministre va coûter la vie au fondateur et au président du mouvement et au guide de ce mouvement, Hassan al-Banna, qui sera assassiné en 1949, en pleine rue. De là, ses disciples, ses suiveurs l'appellent le Shahid. Il l'appelle al-Shahid, le martyr, parce qu'il est mort assassiné. Et on a fait croire aux gens qu'il a été tué pour une cause noble, alors qu'en réalité, ce n'est qu'un règlement de compte. L'épouse du ministre n'a jamais accepté ce qui est arrivé à son mari. Et elle a tout fait pour avoir vengeance et de s'en prendre au leader de ce mouvement dont un des membres a assassiné son mari qui était le ministre. Un grand savant d'Égypte, min ulama al-salafiyin, c'est le grand muhaddith Ahmed Mohamed Shakir, rahimahullah ta'ala. Il écrira un article pour condamner cet assassinat de ce ministre. Et que c'est une chose qui est inacceptable. Et le mouvement des frères musulmans, ils voudront se venger de cet article et ils essaieront même de l'assassiner. Mais Allah, il le sauvera de ce qu'ils ont préparé. Et ce grand savant, Ahmed Shakir, rahimahullah, a bien dit qu'il ne fait aucun doute auprès de nous que ce mouvement qui s'appelle les frères musulmans est financé par les juifs et les communistes. De ce mouvement, avec l'assassinat de Hassan al-Banna, entrera dans ce mouvement un homme qui était connu pour être communiste socialiste, connu pour sa plume. Il écrivait des articles dans des journaux. Il n'était pas pratiquant dans la religion, mais il va retourner à la religion. Il adhère au mouvement des frères musulmans. Certaines responsabilités, même des branches armées de ce mouvement. Et il va s'endurcir. Et il sera une des plus grandes réfugiées et qui sera arrêté et condamné à mort en 1965. Il est mort en 1965. Il a son petit frère. Qui est mort il n'y a pas très longtemps, Mohamed Qutb, qui va faire la publicité. De toutes parts, participeront à la propagation des livres de Sayyid Qutb, jusqu'à être une référence chez les gens qui retournent à la religion, les gens qui pratiquent la religion. Et de là, de ces livres, naîtront les mouvements tekfiri et khawarij de notre époque, que ce soit dans les années 70, les années 80, 90, jusqu'à aujourd'hui. En Égypte, il y avait Al-Jama'a al-Islamiyya, Jama'atul Jihad, que Cheikh Muqbil, rahimahullah,
appelé Jama'atul Fasad. C'est le groupe de la corruption, des gens qui ne font que du mal là où ils passent. Donc, ça commence par s'en prendre aux gouvernants. À tort ou à raison, mais ils entrent dans des domaines qui les dépassent. Ils n'en ont pas la capacité, ni le savoir et la connaissance qu'il faut. Ils prennent un rôle qui n'est pas le leur. Et ils les taxent, pour un oui, pour un non, de mécréants. Puis, ils s'en prennent à l'entourage du gouvernant, aux autorités qui sont autour de lui. Puis, à la police, à l'armée qui sont, yarhamukallah, qui sont sous son ordre. Puis, à la population musulmane qui ne bouge pas et qui, par leur silence, accepte cette situation. Donc, ils sont complices, donc ils prennent le même jugement et ils sont taxés de mécréants. Et cette khutub en est arrivée à dire que toute la communauté musulmane a apostasié. Il n'y a plus de musulmans. Il est encore plus loin. Il a dit même ceux qui 5 fois par jour font l'appel à la prière. Même eux, ils n'ont pas été à l'abri de sa langue. Wal'iyadu billah. Puis, il faut savoir une chose, c'est que les grands savants de l'islam, rarement, ils s'adonnent à la lecture des livres contemporains. Ils puisent dans les livres des anciens. Je parle de ulama de la sunna, ceux qui se ressourcent. Et il arrive que certains parmi eux s'intéressent pour regarder, lire des livres de certains contemporains. De là, certains tombent dans des textes qui sont en contradiction avec la sunna et les fondements de la sunna. Et un des premiers qui a détecté les problèmes dans les ouvrages de Sayyid Qutb, c'est le Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et c'est une des raisons pour laquelle les frères musulmans, dans les années 70, appelaient à le boycotter et à ne pas assister à ses cours. Et que celui qu'il sera pris en train de suivre les cours de l'Albani ou approcher l'Albani, il sera radié du mouvement des frères musulmans. Donc, même ceux qui n'étaient pas trop d'accord avec la décision, eh bien, ils s'y pliaient pour ne pas être radiés. Wal'iyadu billah. Il y a aussi le Cheikh Abdullah Ad-Douaysh. Abdullah ibn Muhammad Ad-Douaysh, rahimahullahu ta'ala, un savant saoudien qui est mort en 1989, si je ne me trompe pas, qui était de la région de Al-Qassim, et dont un des fruits de la da'wa des frères musulmans saoudiens, Salman Al-Aouda, le combattra, parce qu'il est de sa région. Wal'iyadu billah. Pourquoi? Parce que Abdullah Ad-Douaysh, il a écrit un livre où dedans il énumère les erreurs dans la aqida qu'il y a dans le tafsir de Sayyid Qutb, Fi Dhilal al-Qur'an, qui est un livre d'égarement, de dalal, qui n'a rien à voir avec le tafsir. Il a énuméré près de 180 erreurs. Il a appelé son livre Al-Mawlid al-Azb al-Sulal, sur les erreurs qu'il y a dans Fi Dhilal al-Qur'an. Puis, on a le grand savant, le Cheikh Rabi' ibn Hadi Umair al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala, qui lui, vu l'ampleur qu'a pris les ouvrages de Sayyid Qutb et leur propagation, il a pris de son temps, de son énergie, pour vérifier point par point ce qui se trouve dans les livres de Sayyid Qutb. Et donc il en a fait une étude, une des études les plus complètes. Et sorti de là, les ouvrages de réfutation et de mise en garde contre Sayyid Qutb. C'est ce qui a mis en colère les frères musulmans et tous les mouvements qui s'y affilient, et les sectaires. C'est pour cela que un de leurs plus grands ennemis contemporains, c'est Cheikh Rabia. Quelle est la raison? Et ça, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui décrète que le vrai est en combat avec le faux jusqu'à la fin des temps. La vérité, elle est combattue jusqu'à la fin des temps, d'une manière ou d'une autre. Donc, ils l'ont combattue. Mohammed Qutb, le frère de Sayyid Qutb, a essayé de travailler plus intelligemment, de maquiller le faux par le vrai, de faire passer l'aqida des khawarij, l'aqida du tekfiri. Quand on dit tekfiri, parce que c'est le terme qu'on leur donne, ce sont les gens qui ont de l'excès et de l'exagération dans le tekfir. En réponse à ceux qui disent, mais le tekfir il existe. Oui, mais quand on dit tekfiri, il est question de qui? De ceux qui ont cet excès et cette exagération dans le tekfir, qui est contraire à la droiture. طيب. Mohammed Qutb a fait passer la aqida des Khawarij comme étant la aqida de Ahl Sunnah. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, la aqida de Ahl Sunnah, il l'a fait passer pour Al-Irja. Donc, ceux qui défendaient clairement aqida Ahl Sunnah, c'est des Murji. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, l'avait bien dit à son époque, que les Khawarij nomment Ahl Sunnah comme des Murji'a. Et il a dit, ce sont eux les Murji'a. Et un des fruits de la da'wa des frères musulmans en Arabie Saoudite, un compère de Salman al-Aouda, c'est Safar ibn Abdurrahman al-Hawali. Safar al-Hawali et Salman al-Aouda, c'était des élites chez les Ikhwan dans les années 90. Beaucoup de prêcheurs saoudiens parmi les frères musulmans, on n'entendait pas trop leur nom à l'époque. Leur élite, c'était Salman al-Aouda et Safar al-Hawali. Et Safar al-Hawali, il a fait son doctorat, supervisé par qui? Par Mohammed Qutb. Et son doctorat, il s'intitule ظاهرة الإرجاء في العالم الإسلامي. C'est-à-dire l'apparition de l'Irja dans le monde musulman. En réalité, son livre, qui a été interdit de publication en Arabie Saoudite, mais qui a été publié en Égypte, la moitié, comme certains savants ont dit, la moitié de ce livre, ce sont les éloges de Sayyid Qutb. Et l'autre moitié, c'est les accusations et mises en garde contre Cheikh Al-Albani. C'est pratiquement les premiers, si ce n'est le premier, qui a sorti cette parole de prétendre que Al-Albani il est Murji. De là, ce terme il s'est propagé. Supervisé par qui ? Par Mohammed Qutb. Et regardez, Cheikh Al-Albani, ils l'ont combattu de toutes les manières. Ils l'ont combattu. Et ils l'ont traité de tous les noms. Allah l'a élevé. Il meurt, alayhi rahmatullah, derrière, sur qui vraiment on met l'accent et on s'en prend à lui, à Cheikh Rabia. Et subhanallah, Cheikh Rabia, c'était un de ceux qui a le plus combattu Sayyid Qutb et un des plus grands défenseurs de Cheikh Al-Albani. Subhanallah. Donc il y a, on comprend, il y en a en partie pourquoi cet acharnement contre lui. Al-Muhim, هذا Muhammad Al-Ghazali qui est mort en 1996. Donc c'était un Azhari, donc qui a étudié l'Azhar. Et c'est parmi ceux, les frères musulmans en général, qui font revivre l'idéologie de Mu'tazila. Les noms changent, mais le contenu c'est le même. Ils donnent prépondérance à la raison par rapport au texte. Le raisonnement, il a plus d'importance que les textes. Ils argumentent avec le raisonnement. Le raisonnement a le dessus sur les textes. Et ça, c'est une des croyances de Mu'tazila. Parce que la question s'est posée. Si le raisonnement contredit le texte, on fait comment? Si le raisonnement contredit le texte. Eux, ils ont dit, le raisonnement passe avant le texte. Alors le sunna, ils ont dit non. Les textes religieux passent devant le raisonnement. S'il y a un souci, ce qui est remis en cause, c'est le raisonnement et non pas les textes. Et puis, une autre phrase qu'ils disent, un texte authentique n'est jamais remis en cause par un raisonnement sain. Et comme souvent les raisonnements sont corrompus, sont pollués, donc c'est à cause de cela que la personne, de par son raisonnement, a du mal à un moment donné à comprendre, assimiler, accepter un texte. Mais le texte en lui-même, s'il est authentique, il n'a aucun souci. Parce que si le texte n'est pas authentique, la question ne se pose pas. On parle de texte authentique, puisqu'on ne s'argumente pas avec le texte qui n'est pas authentique. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a un grand ouvrage en plusieurs volumes qui s'intitule Dar'u Ta'arud al-Aql wal-Naql. C'est-à-dire que le raisonnement ne contredit jamais le texte. Le bon raisonnement. Et dedans, il répond, comme à son habitude, rahimahullah, yani, il répond à tous ceux qui ont discuté à ce sujet et il clarifie la bonne opinion à avoir là-dessus. Vous imaginez que Mohamed al-Ghazali, il lui est arrivé d'écrire quoi? Il m'arrive de prendre comme argument un hadith qui, chez les savants du hadith, n'est pas accepté. Il est faible, mais il est en conformité avec mon raisonnement. Et il m'arrive de ne pas prendre un hadith comme argument, même s'il est dans le Bukhari muslim, car il contredit mon raisonnement. C'est très très grave. C'est énorme. Wallahu al-musta'an. Tayyib. Ça, c'était le point que je voulais préciser. Puis, Cheikh Rabi, hafidhahullah ta'ala, nous dit ومن هنا ارتبط الشيخ بمجلة المنار وبما كانت تنشر من بحوث في السنة وأعجب بها أيما إعجاب وعلى إثر ذلك جذبه علم الحديث وأحب كتبه فأقبل على دراسة كتب الحديث وتحصيلها بهمة عالية ووفقه الله عز وجل في ذلك بما حباه من ذهن وقاد ونبوغ ظاهر وعقلية علمية نادرة. Et ce passage, c'est le dernier passage sur lequel on s'est arrêté. فكان إذا اكتسب من عمله ما يكفي حاجته ترك العمل. Donc le Cheikh Al-Albani rahimahullah, il a été très reconnaissant envers son père. La plus grande raison, c'est l'immigration qui lui a permis de grandir dans un pays musulman arabe. Donc il est devenu arabisant et il lui a permis directement d'aller aux sources de l'islam. Et deuxièmement, c'est que son père lui a appris un métier. C'est la réparation des montres. Hein, qui va lui permettre d'être indépendant, de ne pas dépendre de quelqu'un. et aussi de pouvoir gagner sa vie pour lui et sa famille. Et le cheikh, rahimahullah, il avait une règle qu'il s'était donnée, c'était à chaque fois qu'il a ouvert son kiosque et qu'il a gagné ce qui lui suffit pour sa journée, il ne cherchait que ce qui lui suffit pour sa journée. Le lendemain, c'est un autre jour. Il fermait sa boutique et il s'est donné aux études. Alors que Cheikh, en peu de temps, il est devenu célèbre. C'était un horloger célèbre dans tout Damas pour sa précision, son bon travail et son sérieux. Et donc, beaucoup de monde venait chez lui pour réparer leur montre. Mais avec ça, il ne travaillait que de quoi gagner sa journée. Une fois qu'il avait la somme de sa journée, il fermait la boutique. Et il s'adonnait aux études. فَكَانَ إِذَا اكْتَسَبَ مِنْ عَمَلِهِ مَا يَكْفِي حَاجَتَهُ تَرَكَ الْعَمَلِ. Dès qu'il avait ce qui pouvait lui suffire dans sa journée, il arrêtait le travail. وَأَقْبَلَ عَلَى الْعِلْمِ. Et il s'est donné à la science. وَتَحَوَّلَ دُكَّانُهُ إِلَى مُلْتَقَى لِطَلَبَةِ الْعِلْمِ. Et son kiosque est devenu un lieu de réunion, hein, d'études. Les gens venaient jusqu'à là-bas pour discuter dans la religion, lui poser des questions, et voilà. Et combien en ont profité de ces assises, hein, devant le kiosque. وَسُبْحَانَ اللَّهِ كَيْفَ ملك علم الحديث لب فؤاد هذا الفتى. Et gloire à Allah, c'est un étonnement. Gloire à Allah, comment cette science du hadith, hein, elle a eu un impact sur ce jeune homme. وهو الذي نشأ في بيئته وإن كانت بيئة علم وتدين مذهبية. Alors que lui, il a grandi dans un milieu, dans une demeure, même si elle était connue dans la religion et l'étude de la religion, mais elle était aussi attachée aveuglément au madhhab, comme on l'a vu.
وَمَعَ مَا كَانَ يَسْمَعُ مِنْ وَالِدِهِ عِنْدَمَا رَأَى إِقْبَالَهُ عَلَى هَذَا الْعِلْمِ.
Et aussi, son père faisait tout pour le détourner de cette science. Son père ne voulait pas que son fils s'adonne à la science du hadith. Et il lui disait, « Ya Muhammad, ilmu al-hadith sun'atu al-mafalis. » Il lui disait, « Oh Muhammad, c'est le Cheikh l'Albani, ça s'appelle Muhammad, rahimahullah. » Et lui dit, « La science du hadith ne s'adonne à ce métier, à ce travail, que les gens faillitaires, qui font faillite. » C'est-à-dire qu'à l'ancien temps, les gens s'adonnaient aux sciences et à un thème précis dans la science, mais après ils pouvaient travailler dedans. Ils pouvaient être professeurs dans le fiqh, ils pouvaient être imam de mosquée, ils pouvaient être juges et ainsi de suite. Et ceux qui s'adonnaient au hadith, il n'y avait pas grand-chose qui les attendait. Donc c'est comme si tu ne gagneras rien dans ce bas monde, tu ne pourras pas en faire yani, un métier.
وعندما رأى مؤرخ حلب ومحدثها الشيخ محمد راغب الطباخ نبوغ الفتى وإقباله على العلم أجازه بمروياته وهي مذكورة في ثبته الأنوار الجلية في مختصر الأثبات الحلبية.
Et lorsque l'historien de la ville d'Alep, la ville de Halab, et son muhaddith, le cheikh Mohammed Raghib al-Tabbar, il a rencontré ce jeune homme, qui est cheikh l'Albani, rahmallah, et il a vu l'envie et la force qu'il avait dans cette science de l'hadith, il lui a donné une ijaza, une reconnaissance, une permission, un permis de pouvoir rapporter des livres de hadith que lui, il a les chaînes de narration jusqu'à leurs auteurs.
Et cela est cité dans un de ses ouvrages de ce cheikh Mohammed Raghib al-Tabbar, dans lequel il cite toutes les chaînes de narration et il cite à qui il les a données.
وَلَيْسَ مِنَ الْأَسْرَارِ أَنَّ الشَّيْخَ رَحِمَهُ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ عَنْ هَذِهِ الْإِجَازَةِ هِيَ لَا تَعْنِي لِي شَيْئًا وَإِنَّمَا نَرُدُّ بِهَا فَقَطْ عَلَى الْحَاقِدِينَ.
Et ce n'est pas un secret de savoir que Cheikh Al-Albani, rahmahullah, loin de là, il ne cherchait un quelconque diplôme ou une quelconque reconnaissance, rahimahullahu ta'ala. Mais il disait sur cette ijaza, il disait, elle ne me sert à rien. Et personnellement, elle ne m'est d'aucune utilité. Mais on s'en sert pour répondre aux jaloux et à ceux qui, aux détracteurs qui nous attaquent. Parce que les détracteurs cherchent tout moyen. Alors on en a entendu des choses, parmi lesquelles il n'est pas arabe. Une phrase qui ne veut rien dire. C'est-à-dire que c'est normal, il a plein d'erreurs, c'est parce qu'il n'est pas arabe. Il n'a pas la maîtrise de l'arabe. Mais montrez-nous vos écrits et on va les comparer avec les écrits de Cheikh Al-Albani. On va voir c'est qui a des problèmes dans la langue arabe. Parler et on écoute l'Albani, on va voir ce qui est le plus clair. Subhanallah. Quel est ce racisme qui n'existe pas en islam? Subhanallah. Ça, c'est des paroles qu'un bon musulman ne peut dire. Tayyib. Parmi, il n'a pas de professeur. Tous les moyens sont bons pour s'attaquer. On voit bien qu'il a eu des professeurs. Mais eux, ils cherchent un moyen pour le détourner les gens de ce cheikh. Comme ils n'ont pas pu le faire scientifiquement, ils n'ont pas pu répondre scientifiquement, et loin de là, donc ils cherchent d'autres moyens.
Tayyib. Il y a le cheikh Mohamed Omar Bazmoud, hafizahullah ta'ala, un grand cheikh qui est à Mecca, un docteur fil hadith, professeur à Jami'at Umm al-Qura, l'université islamique de la Mecque, hafizahullah ta'ala, qui a un écrit sur défendre Ahlul Hadith, la défense des gens du Hadith, Al-Intisar li Ahlul Hadith. Et dedans, il y a un grand chapitre réservé à la défense de Cheikh Al-Albani. Et il ramène tous les points que citent ses détracteurs. Et il y répond en détail. De même, il l'a encore plus détaillé dans la muqaddima, dans l'introduction de son explication de Mukhtasar Talkhis Sifat Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le Cheikh Al-Albani. Car le Cheikh Mohamed Bazmoul avait fait des audios dans lesquels il expliquait Sifat Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam de Cheikh Al-Albani. Talkhis, le Mukhtasar, où il y a le résumé du livre Sifat Salat al-Nabi. Et le résumé, c'est Cheikh Al-Albani en personne qui l'a fait. D'accord ? C'est un petit livret qu'il a fait, un petit épître que Cheikh Al-Albani a fait, et c'est le Cheikh Mohamed Bazmoul a commenté cela, c'était des audios, par téléphone, appel téléphonique, depuis la région parisienne. Il y a à peu près 13-14 ans de cela, à peu près. 13-14 ans de cela, des frères avaient organisé, alhamdoulilah, et beaucoup de monde pouvait profiter à l'époque, et c'était des appels téléphoniques avec Cheikh Mohamed Bazmoul, et on a terminé ce livre avec. Puis, un des responsables qui avait les audios les a mis en CD, me les a remis, m'a remis le CD, et je l'ai donné en main propre à Cheikh Mohamed Bazmoul, Ramadan 2003. Ramadan 2003, et il a sorti le livre. Donc les audios, il s'en est servi pour retranscrire tout ce qui est le charh qu'il avait fait, et c'est sorti en livre. C'est un Mujallad, vous l'avez déjà peut-être vu, ouais, vous l'avez. Donc un Mujallad, et dedans, dans la Muqaddima, d'accord, il défend Cheikh Al-Albani alayhi rahmatullah. Et Cheikh Mohamed Bazmoul, il a un écrit, un petit écrit, c'est un article dans lequel il explique sa rencontre avec Cheikh Al-Albani rahmatullah pendant le pèlerinage de l'année 1990. C'est la dernière fois que Cheikh Al-Albani ira en pèlerinage, en 1990. Et il raconte qu'il a rencontré Cheikh Al-Albani rahmatullah, qu'il est monté avec lui en voiture et qu'il lui lisait, c'était des feuilles qu'il avait,
Hein, il défendait Cheikh Al-Albani rahmahullah contre ses détracteurs et il lui lisait cela. Non. Tayyib.
Qult. Et là c'est Cheikh Rabi' hafidhullah qui parle. Wa hadha 'aynul haqqi was-sawab. Idh min al-ma'ruf.
C'est soit Cheikh Rabi' qui parle là, ou de là où Cheikh Rabi' a pris la biographie de Cheikh Al-Albani. Car beaucoup ont écrit des biographies de Cheikh Al-Albani, et là Cheikh Rabi' il s'est servi de certains écrits.
Et ça c'est clairement la vérité.
إذ من المعروف أن مثل هذه الإجازات لا تكسب أصحابها علما.
Il est bien connu que ces documents Ijaz, hein, ces permissions de pouvoir rapporter d'après un shir avec la chaîne de narration jusqu'aux auteurs des livres ou des recueils, c'est pas ces documents ou ces papiers qui vont donner la science à la personne.
Cheikh Rabi', là c'est lui qui fait la notation en bas, il dit
Kalla, inna al-ijazat la muhimmatun jiddan. وَإِنْ كَانَ فِي مَنْ يَأْخُذُهَا أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْجَهْلِ فَهُنَاكَ مَنْ يَأْخُذُهَا لِمَقَاصِدَ عَظِيمَةٍ مِنْهَا أَنَّ فِيهَا حِفَاظًا عَلَى سِلْسِلَةِ الْأَسَانِيدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحِفَاظًا عَلَى الْكُتُبِ وَحِفَاظًا عَلَى الْكُتُبِ التي تضمنت هذه السنة النبوية وكما يقال الأسانيد أنساب الكتب.
Donc Cheikh Rabi' il dit non, ces ijazat, elles ont toute leur utilité et leur intérêt. Même si on reconnaît que parmi ceux qui les ont eus et ceux à qui ils ont été donnés, ces ijazat, il y en a qui sont connus pour leur ignorance. Parce que chacun est son objectif. Il y en a, ils ramassent les ijazat. Ils vont se déchirer. Ils s'assoient, ils écoutent le cheikh lire le livre. Et le cheikh a vu qu'il a assisté, il lui donne ijaza. Et il remplit son bureau d'ijaza. Mais au final, il est ignorant. Mais les gens croient qu'il a quelque chose. Parce qu'il a des ijaza. Mais de l'autre côté, d'autres ont d'autres objectifs. C'est de lier leur nom à la chaîne de narration qui mène jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est de participer à cette chaîne de narration pour rapporter du prophète alayhi salatu wa sallam. Et dedans aussi, il y a la protection des chaînes de narration jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi une protection des chaînes de narration jusqu'au livre, pour préserver tel livre, que le livre il est bien d'un tel. Comment tu le sais? Je l'ai pris d'un tel, qu'il l'a pris d'un tel, jusqu'à l'auteur du livre. Dans lesquels sont préservées la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et comme il est dit, les chaînes de narration sont l'affiliation des livres. Hein? Sont l'affiliation des livres. L'affiliation dans le sens, comme les liens de famille. Comme les liens de famille.
طيب. وكلنا يعرف كم من الجهال لديهم عشرات الإجازات ومع هذا ما زالوا جهالا.
Car on sait combien d'ignorants ont des dizaines d'ijaza, alors qu'au même moment, ils sont ignorants.
ولكن المؤكد أن من سيطر الحقد على قلبه لا يقنع بإجازتهن بل ولا بعشرات الإجازات ويغلب على هؤلاء الحاقدين الجمع بين الحقد والجهل.
Il dit, mais celui qui est dont le cœur est plein de haine
et que la haine a pris le dessus sur lui et sur son cœur, il ne sera jamais satisfait d'une ijaza, même pas de dizaines d'ijaza. Et cela, en général, ils ont réuni entre deux problèmes, la haine et l'ignorance. وربما الجبن والتخفي أيضا. Et parfois même, ils accompagnent cela avec quoi? De la peur et aussi ils se cachent. Ils vont s'attaquer, mais en cachette. Ils ne se montreront pas. Ou ils vont pousser des gens à le faire à leur place. Et eux, ils restent en arrière. طيب. جلدهو في البحر. La force et l'envie qu'avait Cheikh Al-Albani rahimahullah dans la recherche. Rare un savant d'aujourd'hui avait cette force qu'avait Cheikh Al-Albani rahimahullah. Combien baisse les bras et laisse tomber. Tellement des fois la recherche elle devient difficile et on croit que ça ne donnera pas de fruits. Lui ne lâchait pas l'affaire. Il allait jusqu'au bout lorsqu'il en était convaincu. Comme un a dit, je me contente de prendre le jugement de Cheikh Al-Albani sur les hadiths. Il est valide, il n'est pas valide, il est authentique, il est faible, il est inventé, parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Le temps qu'il donnait pour un seul isnad, des nuits entières et des journées entières pour donner un jugement. Donc, il dit, par confiance, je me contente du jugement qu'a donné Cheikh Al-Albani au hadith.
وهذا أمر بارز جدا في حياة الشيخ رحمه الله.
Et ceci est un point qui distingue le Cheikh رحمه الله, bien connu de lui.
وأكتفي هنا بمثالين اثنين.
Et je me contente ici de donner deux exemples en cela.
Le premier, c'est pas grave, on va le lire en entier, parce que même l'histoire elle est belle.
Qissatu al-waraqati al-da'i'a. L'histoire de cette page manquante. L'histoire de cette page manquante. Le cheikh, comme vous le savez, tout son temps libre, il s'est donné à la Maktab al-Zahiriya. Al-Maktab al-Zahiriya est une bibliothèque pas très loin de la mosquée des Omeyyades, ancienne. Le bâtiment existe toujours, c'est un bâtiment pratiquement millénaire. Il existe toujours, mais les manuscrits, ils sont tous à la Bibliothèque nationale, en centre-ville, car elle est plus moderne et avec les moyens modernes de préserver les manuscrits. Et dans la Maktaba al-Zahiriya, il s'y trouvait des manuscrits dans les sciences religieuses qu'on ne retrouvait dans aucune autre librairie dans le monde musulman. Le Cheikh Rabi' Hafidhullah, il dit, Allah tabaraka wa ta'ala a permis, a facilité à Cheikh Al-Albani d'entrer dans cette maktaba et de trouver dedans un trésor des manuscrits qu'on ne retrouve dans aucune autre bibliothèque dans le monde musulman. Il a retroussé ses manches et il a étudié ses manuscrits d'une manière que des États réunis ne pourraient le faire. Des États qui financent des groupes de chercheurs pour qu'ils fassent ce travail, il n'aurait jamais pu donner le même résultat qu'a donné Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Et Al-Maktab al-Zahiriya, Cheikh Al-Albani rahimahullah, il y passait des longues heures tous les jours pendant plus de 50 ans. Et subhanallah, parmi les leçons à tenir de ce récit, c'est que parfois
dans ce qu'on pourrait croire être un mal, il y a beaucoup de bien qui en découle. Et Allah, il sait, et nous, on sait pas.
قال الشيخ رحمه الله في مقدمة فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية المنتخب من مخطوطات الحديث. المكتبة الظاهرية cette مكتبة elle a demandé à des professeurs, des chercheurs de faire des index des manuscrits qu'on a dans la maktaba. Et le fait qu'il savait que Cheikh Al-Albani rahimahullah, depuis très longtemps, de longues années, tellement qu'il était connu par les employés de la maktaba, ils lui ont donné une clé. Il avait une clé à lui. Et ils lui ont donné une pièce que pour lui. Jamais cela n'a été donné à quelqu'un avant lui. Ils lui ont dit, ça c'est ta pièce, tu prends les manuscrits, tu les ramènes là-bas, quand tu as fini, tu les remets à leur place. Et même des chouyours, des savants, quand ils passaient par le Maktab al-Zahiriya, ils allaient voir Cheikh Al-Albani, il y a eu des discussions. Parfois Cheikh Al-Albani raconte dans des audios un peu ce qui s'est passé. Tayyib. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a fait l'index de tous les manuscrits du hadith qu'il y a dans cette maktaba. Un grand volume. Vous savez, c'est les volumes grands de taille. Les grands volumes de grande taille, c'est un grand volume. Et donc, celui-là concernait l'index des manuscrits dans le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Et dans l'introduction, dans la muqaddimah, dans la préface, il raconte un peu comment il en est arrivé là. Il dit, rahimahullah ta'ala, « Lam yakun li yakhtur fi bali wad'a mithli hadha al-fihris. » Jamais je ne me suis imaginé faire cet index. Il y en a quand ils ont fini un travail, ils s'étaient prévus. Ils avaient projeté de faire. Lui, ce n'est que le fruit de quelque chose qu'il n'avait pas préparé en avance. لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ اِخْتِصَاصِ Car à la base, ce n'est pas mon domaine. Ce n'est pas ma spécialité de faire ces index. وَلَيْسَ عِنْدِي مُتَّسَعْ مِنَ الْوَقْتِ لِيُسَاعِدَنِي عَلَيْهِ Et je n'avais pas le temps pour faire ce travail-là. ولكن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيا أسبابه. Mais lorsqu'Allah il veut une chose, il met les causes de cela. فقد ابتليت بمرض خفيف أصاب بصري. Donc le cheikh رحمه الله, il est tombé malade. Il avait un problème aux yeux. منذ أكثر من 12 عاما. Il dit avant 12 ans. Ça faisait 12 ans qu'il avait ce problème-là aux yeux. فنصحني الطبيب المختص بالراحة. Donc le médecin spécialiste lui a demandé de se reposer, d'arrêter d'aller à la maktaba. N'oubliez pas qu'on parle d'une maktaba qui comporte quoi ? Des manuscrits. Des manuscrits, vous savez, c'est des livres qui ont plusieurs centaines d'années. D'accord ? 1000 ans, 800 ans, 900 ans. Et donc, plein de poussière et ainsi de suite. En plus, c'est un lieu fermé. C'est les vieux bâtiments. Les vieux bâtiments anciens. Donc, peut-être que ça a été une des causes de son problème aux yeux. Et il lui a demandé le médecin de délaisser pendant un moment l'écriture et la lecture. Et aussi d'arrêter de travailler. Hein? Parce que son travail, c'est quoi ? C'est réparer les montres. Et réparer les montres, tu as besoin de quoi ? De tes yeux. D'accord ? Ils ont un appareil, là, une loupe là, qu'ils mettent à l'œil hein, pour avoir plus de précision et de bien regarder l'intérieur. D'accord ? Et les éléments de la montre. Et il est dit que Cheikh Al-Albani, rahmahullah, du fait qu'il a appris ce métier de réparer les montres, ça lui a donné une précision. Ça demande de la précision parce que c'est trop petit les éléments
Et cette précision, elle lui a servi dans le hadith. Et donc le médecin lui a demandé de, pendant 6 mois, de s'arrêter et de se reposer. فَعَمِلْتُ بِنَصِيحَتِهِ أَوَلَ الْأَمْرِ. En premier lieu, j'ai appliqué son conseil. فَتَرَكْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ نَحْوَ أُسْبُعَيْنِ. Pendant 2 semaines, j'ai tout arrêté. ثُمَّ أَخَذَتْ نَفْسِي تُرَاوِدُنِي وَتُزَيِّنُ لِي أَنْ أَعْمَلَ شَيْئًا فِي هَذِهِ الْعُطْلَ الْمُمِلَّةِ. Mais c'était comme des vacances ennuyeuses de ne rien faire. Et mon esprit me parlait et me poussait à essayer de trouver un moyen de retourner à ce travail. عَمَلًا لَا يُنَافِي بِزَعْمِ نَصِحَتَهُ. De travailler d'une manière qui, d'après mes prétentions, n'iront pas en contradiction avec le conseil du médecin. وَتَذَكَّرْتُ رِسَالَةً مَخْطُوطَ فِي الْمَكْتَبَةِ اسْمُهَا ذَمُّ الْمَلَاهِي لِلْحَافِظِ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا رَحِمَهُ اللَّهِ لَمْ تُطْبَعْ فِي مَا أَعْلَمْ يَوْمَئِذٍ. Et je me suis rappelé d'un livre, d'un manuscrit, dans la Maktaba al-Zahiriya, qui s'intitule Zammu al-Malahi, de l'Hafiz ibn Abi al-Dunya, rahimahullah, qui n'avait jamais été publié à ce moment-là, qui n'avait pas encore été publié à ce moment-là. Fakultu, mal mani' min an ukallifa man yansukhuha li, wa hatta yatimma naskhuha, wa ya'ti waqtu muqabalatuha bil asl. Il s'est dit, il ouvre le problème de demander à une personne d'aller me retranscrire le manuscrit, d'aller à la Maktaba Zahiriya, de prendre le manuscrit, Zammul Malahi, l'Ibn Abi Dunya, rahimahullah, et de me le réécrire. Et le temps que lui retranscrit ce livre, et vienne le temps de vérifier ce que lui a retranscrit avec l'original, il va se passer un long moment de repos pour moi. فَبِإِمْكَانِ يَوْمَئِذٍ مُقَابَلَتُهَا وَهِيَ لَا تَسْتَدْعِي جُهْدًا يُنَافِي الْوَضْعَ الصِّحِّي الَّذِي أَنَا فِيهِ. Et ce jour-là, le jour J, je pourrai vérifier entre ce qui a été retranscrit par rapport à l'original, et cela ne me demandera pas un énorme effort. Parce qu'il faut savoir une chose, lorsqu'on vous dit que quelqu'un a lu beaucoup de manuscrits, ce n'est pas comme lire beaucoup de livres qui sont publiés. Lire un manuscrit, c'est très difficile. Parfois les mots sont illisibles, parfois on croit lire un mot, c'est un autre mot, il y a plein de problèmes. L'écriture à la plume, et chaque savant et son écriture. Chez les anciens, il y en avait qui avaient des écritures lisibles, il y en avait qui avaient des écritures pratiquement illisibles. À titre d'exemple, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, son écriture, dans une ligne, il n'y a pratiquement pas de séparation entre les mots. On croirait que toutes les lettres sont attachées jusqu'à la fin de la ligne. Et les ulama qui ont cette habitude des manuscrits, ils savent différencier les écritures des ulama. Ils disent, ça c'est l'écriture d'Ibn Taymiyyah, ça c'est l'écriture d'Ibn al-Qayyim. Ils ont l'habitude, tellement qu'ils ont lu de ces savants, ils savent. Et si on leur amène un manuscrit, ils disent, il se peut que celui-là soit d'Ibn al-Qayyim, car ça ressemble à son écriture. Non, ce n'est pas d'Ibn al-Qayyim, ça ce n'est pas son écriture. Et ainsi de suite. Qayyim. ثم أحققها بعد ذلك على مهل. Puis, je pourrais prendre du temps pour bien regarder et corriger ce livre-là. Et je pourrais aussi assortir les hadiths, c'est-à-dire préciser qui a rapporté ce hadith parmi les savants du hadith. Et puis, le moment venu, on pourra le publier. Là, les savants qui font un vrai travail sur un manuscrit pour pouvoir le mettre, le préparer pour la publication, pour qu'il soit mis entre les mains du public.
pas des gens qui veulent imiter les savants et qui font de la retranscription et de préparer un manuscrit pour la publication un métier. Comme en Égypte, beaucoup envoient leur nom en bas de livres, hein, revus par un tel, et ainsi de suite. Et en général, ce sont quoi? Ce sont que des employés. Des employés, et les ulama nous l'ont précisé que parfois il y en a, ils ont fait des dégâts là-dessus. Des dégâts là-dessus. طيب وكل ذلك على فترات et tout ceci se fera par étapes لكي لا أشق على نفسي pour que ce ne soit pas difficile pour ma personne فلما وصل الناسخ إلى منتصف الرسالة lorsque ce frère à qui le cheikh lui a demandé de retranscrire ce livre est arrivé à la moitié du livre est arrivé à la moitié du livre. Ablaghani anna fiha naqsan. Ah, il m'a appris, informé comme quoi il y a un manque. Il manque quelque chose. Il lit, ça ne va pas avec la suite. Il manque quelque chose. Il manque au moins une page, une feuille. فأمرته أن يتابع نسخها حتى ينتهي منها. Alors je lui ai demandé de continuer à retranscrire jusqu'à la fin du livre. ثم قابلتها معه على الأصل. Puis avec lui, celui qui a retranscrit, j'ai fait une vérification de ce qu'il a retranscrit par rapport à l'original. فتأكدت من النقص الذي أشار إليه. Et j'en suis arrivé à la même conclusion que lui. Il a raison qu'il y a bien un manque. Il manque une page. Il manque quelque chose. وأقدره بأربع صفحات في ورقة واحدة في منتصف الكراس. Il dit ça peut être quatre pages qu'on pourrait retrouver dans une seule feuille au milieu du cahier. فأخذت أفكر فيها. Et j'ai commencé à réfléchir là-dessus. وَكَيْفَ يُمْكِنُنِي الْعُثُورَ عَلَيْهَا. Et comment vais-je la retrouver? Ah, ça a commencé à le travailler. C'est celle-là, l'histoire de la page perdue.
وَالرِّسَالَةُ مَحْفُوظَةٌ فِي مُجَلَّدٍ مِنَ الْمُجَلَّدَاتِ الْمَوْضُوعَ فِي الْمَكْتَبَةِ.
Et ce livre, il est préservé dans un volume parmi les volumes placés dans la maktaba, dans la librairie. Tahta unwan majami', sous-titre majami', c'est-à-dire ce sont des volumes dans lesquels il y a plusieurs ouvrages. Il y a plusieurs ouvrages.
Wa fi kulli mujalladin minha 'ala al-ghalib 'adid min ar-rasa'il.
Et dans chaque volume, hein, il y a plusieurs livrets, plusieurs épîtres, plusieurs livres.
عديد من الرسائل والكتب مختلفة الخطوط والمواضيع.
Donc différentes écritures et différents sujets.
والورق لونا وقياسا.
Et même les feuilles sont différentes de par leur couleur et de par leur taille. Hein, parce que ça existe encore dans les pays musulmans, il y en a. Et il y a ce qu'on appelle la reliure. Vous allez chez quelqu'un qui est connu, qui a un kiosque ou une boutique, il fait la reliure des livres, des anciens livres, des manuscrits. Vous avez par exemple plusieurs livrets, vous voulez les réunir. Hein, et donc il vous fait la reliure dans un seul volume. D'accord? Donc là, ils étaient reliés dans des volumes.
فقلت في نفسي,
je me suis dit à moi-même,
لعل الورقة الضائعة قد خاطها المجلد سهوا في مجلد آخر من هذه المجلدات.
Et ceux qui faisaient la reliure, ils faisaient la couture. Hein, ils cousaient les sautres avec du fil, des fils. Et il a dit peut-être que celui qui a fait la reliure
Il s'est trompé par erreur. Cette page, il l'a mise. من هذه المجلدات فرأيتني مندفعا فرأيتني مندفعا بكل رغبة ونشاط باحثا عنها فيها على التسلسل et là j'avais une très grande envie de retrouver cette feuille et j'ai repris tous ces volumes depuis le premier et je me suis mis à les lire un par un tout.
ونسيت أو تناسيت نفسي.
Et en faisant cela, j'ai oublié ma personne. Je me suis oublié. J'ai oublié mon problème que j'avais. Tellement que je me suis adonné à la recherche de cette page.
والوضع الصحي الذي أنا فيه.
Et le problème de santé que j'avais.
فإذا ما تذكرته لم أعد ما أتعلل به من مثل القول بأن هذا البحث لا ينافيه لأنه لا يصحبه كتابة ولا قراءة مضنية.
Et il a dit, mais quand je me suis rappelé de mon problème de santé, je lui ai dit, cette recherche n'a aucun impact sur mon problème de santé, car je n'écris pas et je ne fais pas une lecture concentrée. C'est une lecture rapide. C'est une lecture rapide, ce n'est pas une lecture avec de la méditation. Hein, et réflexion sur les phrases et les mots que je lis.
وَمَا كِدْتُ أَتَجَاوَزُ بَعْضَ الْمُجَلَّدَاتِ حَتَّى أَخَذَ يَسْتَرْعِ انْتِبَاهِ عَنَاوِينَ بَعْضَ الرَّسَائِلِ وَالْمُؤَلَّفَاتِ لِمُحَدِّثِينَ مَشْهُورِينَ وَحُفَّاظ مَعْرُوفِينَ فَأَقِفُ عِنْدَهَا بَاحِثًا لَهَا دَارِسًا إِيَّاهَا فَأَتَمَنَّى لو أنها تنسخ.
Et en lisant, en continuant à lire volume par volume, je tombe sur des épîtres et sur des livres appartenant à des grands ulama de l'hadith reconnus. Et je m'arrête là-dessus et je me concentre là-dessus et j'étudie ce qu'il y a dedans. Et cette envie me vient, pourquoi on n'irait pas retranscrire tous ces écrits ?
وتحقق, et qu'ils soient aussi revus, corrigés, ثم تطبع,
et préparés pour être publiés. Des livres, des trésors dans des maktabats, si personne ne va les regarder, elles sont dans les oubliettes pendant des siècles. Et Cheikh l'Albani, rahmallah, a été une des grandes causes qu'on a découvert beaucoup de livres. Et beaucoup de personnes, et en premier lieu, les savants, les chercheurs et les étudiants, ont pu en profiter.
وَلَكِنِّي كُنْتُ أَجِدُهَا فِي غَالِبِ الْأَحْيَانِ نَاقِصَةَ الْأَطْرَافِ وَالْأَجْزَاءِ.
Mais en général, j'ai souvent remarqué qu'il y manquait des passages, des chapitres. Dans ces livres, ils n'étaient pas complets. Il n'y avait que quelques parties.
فَأَجِدُ الثَّانِ دُونَ الْأَوَّلْ مَثَلًا.
Je trouve la deuxième partie, il manque la première partie. À titre d'exemple.
فَلَمْ أَنْدَفِعْ لِتَسْجِلِهَا عِنْدِي.
Mais je passais par-dessus et je n'enregistrais pas cela. Je ne disais pas, par exemple, que telle partie, elle se trouve à tel endroit.
وَتَابَعْتُ الْبَحْثِ.
Et je continue ma recherche عَنِ الْوَرَقَةِ الطَّائِعَةِ. Dans la recherche de cette page, cette feuille qui manquante du premier livre.
ولكن عبثا حتى انتهت مجلدات المجاميع البالغ عددها 152 مجلدا.
Jusqu'à que j'ai terminé les 152 volumes sous le titre de majami, c'est-à-dire des volumes dans lesquels il y a plusieurs ouvrages dedans. Ça, il y en avait 152 volumes, je me suis retrouvé à les avoir terminés entièrement.
بعد اني وجدتني في هذه المتابعه اثناء المتابعه اخذت اسجل في مسودتي عناوين بعض الكتب التي راقتني.
Mais j'avais comme un petit carnet, un petit cahier dans lequel je notais dedans les titres des livres par lesquels je passais. Il m'est arrivé de marquer les titres pour me rappeler qu'il y a tel ouvrage à tel endroit. Les livres qui l'intéressaient.
وشجعني على ذلك أنني عثرت في أثناء البحث فيها على بعض النواقص التي كانت قبل من الصوارف عن التسجيل.
Donc, ce qui l'a poussé en courage à cela, c'est les manquements qu'il trouvait dans certains livres. Et lorsqu'il retrouvait des manquements dans des livres, il se rappelait les avoir vus dans d'autres volumes. Donc là, il s'est dit, il faut que je le note.
ولما لم أعثر على الورقة في المجلدات المذكورة قلت في نفسي.
Et dès que j'ai compris que cette feuille n'existait pas dans tous ces volumes, où normalement elle aurait dû se retrouver, قلت في نفسي, je me suis dit à moi-même,
لعلها خيطت خطأ في مجلد من مجلدات كتب الحديث.
Il y se peut que par erreur, elle a été rassemblée dans les mujallad, les volumes concernant les livres du hadith.
وَالْمُسَجَّلَ فِي الْمَكْتَبَ تَحْتَ عُنْوَانْ حَدِيث.
Et qui sont ces volumes enregistrés sous le titre hadith.
فَأَخَذْتُ أُقَلِّبُهَا مُجَلَّدًا مُجَلَّدًا حَتَّى انْتَهَيْتُ مِنْهَا دُونَ أَنْ أَقِفَ عَلَيْهَا.
Et j'ai pris tous les volumes sous le titre hadith. Et un par un, je les ai tous lus et j'ai terminé de les lire sans retrouver cette page, cette feuille manquante.
ولكني سجلت أيضا عندي ما شاء الله تعالى من المؤلفات والرسائل.
Mais là, j'ai retranscrit les titres de tous les livres qu'Allah m'a permis de retranscrire qui s'y trouvaient.
وهكذا لم أزل أعلل نفسي وأمنيها بالحصول على الورقة.
Et je continuais à m'encourager et à me dire au fond de moi-même, tu vas la trouver, me donner de l'espoir, tu vas la trouver, tu vas finir par la trouver cette feuille manquante.
فانتقل في البحث عنها بين مجلدات المكتبة.
Et là, je me suis adonné à tous les autres volumes qu'il y a dans cette مكتبة.
ورسائلها et les épîtres qui s'y trouvent من علم إلى آخر, d'une science à une autre. حتى أتيت على جميع المخطوطات المحفوظة في المكتبة.
Jusqu'à que j'ai terminé tous les manuscrits qui se trouvent dans cette مكتبة.
والبالغ عددها,
اسمعوا,
والبالغ عددها نحو 10,000 مخطوط.
Le nombre de ces manuscrits atteint combien ? 10 000 manuscrits. 10 000 manuscrits. Allah, subhanallah, subhanallah, yani. Le fait de rechercher une feuille, subhanallah, une chose que peut-être qu'il n'aurait jamais fait, ça l'a amené à lire les 10 000 manuscrits qu'il y avait dans cette maktaba.
دون, et pour terminer, دون أن أحظى بها.
L'enregistrement, il va y s'arrêter. Pour celui qui a ce portable. Il fallait qu'il mette sur mode avion.
دون أن أحظى بها.
Bah, sans retrouver cette feuille. Donc il ne l'aura jamais trouvé cette feuille. Subhanallah.
ولكني لم أيأس بعد.
Mais je n'ai pas perdu, je n'ai pas désespéré.
فهناك ما يعرف بالدشت وهو عبارة عن مكدسات من الأوراق والكراريس المتنوعة التي لا يعرف أصلها فأخذت في البحث فيها بدقة وعناية ولكن دون جدوى.
Mais il y a des cahiers ou des pochettes, où dedans sont réunies des feuilles, des pages, que celui qui a fait les reliures n'a pas su où les mettre. Et ils sont réunis. Je me suis dit, je vais continuer à chercher dedans. Et j'ai cherché dedans avec précision, entièrement, et je n'ai pas trouvé cette feuille.
وَحِينَئِذٍ يَئِسْتُ مِنَ الْوَرَقَةِ.
À ce moment-là, j'ai désespéré de cette feuille manquante.
وَلَكِنِّي نَظَرْتُ فَوَجَدْتُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ فَتَحَ
لِي مِنْ وَرَائِهَا بَابًا عَظِيمًا مِنَ الْعِلْمِ. Mais j'ai bien regardé et j'ai vu qu'en réalité Allah m'a ouvert une porte derrière cette recherche, une énorme porte de science. Et la suite, ce sera demain, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.